Voilà, bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin pour ce culte d'adoration, de louange, et nous allons partager la parole de Dieu, puis nous prendrons le repas du Seigneur par la suite. Nous poursuivons sur ce thème de l'Esprit de Dieu que nous avons commencé il y a quelque temps. C'est notre huitième partage sur ce sujet. C'est un sujet vaste, bien sûr, et ce matin particulièrement, nous allons voir concernant l'Esprit notre attitude. Quelle doit être notre attitude envers le Saint-Esprit? Nous avons beaucoup vu ce que le Saint-Esprit fait, comment il agit, et ce matin, nous allons nous intéresser à ce que le Saint-Esprit nous demande, ou ce que la parole de Dieu nous demande de faire ou d'être par rapport au Saint-Esprit. C'est vrai qu'une fois qu'on est né de nouveau, qu'on a reçu l'Esprit en nous, alors nous entrons dans cette vie nouvelle, la vie de l'Esprit. Ceci signifie que nous avons des privilèges en tant qu'enfants de Dieu, et c'est une réelle bénédiction, une réelle joie de pouvoir croire et de vivre la vie chrétienne, mais cela aussi implique que nous avons des devoirs envers le Seigneur. Et c'est ce côté-là qu'on va voir. Nous devons savoir ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu nous demande dans la parole. Non seulement le connaître, ça c'est une chose essentielle, car nous devons connaître les Écritures, mais nous devons aussi les mettre en pratique. Alors un premier point que nous allons voir, c'est demander... Première chose que nous devons faire, demander le Saint-Esprit. Luc chapitre 11 et au verset 13, nous ferons une lecture dans le Nouveau Testament, Évangile de Luc, chapitre 11 et au verset 13. Et Jésus dit, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et dans le contexte de ce verset que j'ai tiré de la parole, on se rend compte que Jésus nous demande de prier avec persévérance pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, il va prendre l'exemple de parents, vous les avez dans les versets qui précèdent, et Jésus dit, des parents, ils donnent de bonnes choses à leurs enfants, alors qu'ils sont mauvais. Alors il prend l'exemple, par exemple, si un enfant demande du pain, il ne va pas lui donner une pierre. Et puis si un enfant demande du poisson, il ne va pas lui donner un serpent. Et si son enfant demande un œuf, il ne va pas donner un scorpion. Alors on peut remarquer que ces trois éléments, que ce soit le pain, le poisson ou l'œuf, c'est les provisions qui étaient généralement utilisées pour les voyages. Le pain, le poisson et l'œuf. Et en fait, cette nourriture est nécessaire pour avoir des forces pour aller de l'avant. Et on va voir que ça a un rapport avec la vie de l'esprit, parce que l'esprit va nous donner des forces spirituelles pour aller de l'avant aussi, mais sur le plan spirituel. Donc, quand Jésus dit « Si donc méchant comme vous l'êtes », est-ce que ça veut dire que les gens sont méchants ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot méchant? Ce mot méchant signifie mauvais. Il fait référence au péché originel qui a contaminé la race humaine. Car depuis Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs par nature. C'est ça que signifie le mot méchant, qui peut-être n'a pas le sens qu'on donne au mot méchant aujourd'hui, mais qui signifie mauvais, qui signifie nature pécheresse. Et notre cœur, effectivement, est orienté au mal. Dès notre enfance, ça c'est la nature humaine qui est mauvaise. La parole de Dieu nous le confirme en disant que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est le même mot méchant, ne signifie pas méchant dans le sens dont on l'utilise aujourd'hui, mais signifie il est pécheur, il est séparé de Dieu, il est mauvais par nature. Et si des parents qui ont déjà en eux une nature pécheresse ou une nature mauvaise, naturellement ils vont faire de bonnes choses pour leurs enfants, et c'est vrai, on le voit. Et c'est bien. Bien, Jésus dit, à plus forte raison, nous avons ce matin un Père spirituel, c'est Dieu qui nous aime. Et lui, il est d'une nature sans péché, il est d'une nature parfaite, contrairement à nous. Donc, lui, à combien plus forte raison, il va faire de bonnes choses pour ses enfants, et nous sommes les enfants de Dieu. Donc, il prend le parallèle en disant, voilà, il va vous donner la nourriture nécessaire. Alors, si on regarde cette nourriture, c'est... le pain, le poisson, l'œuf, c'est-à-dire la nourriture pour le voyage. Et Jésus dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera la nourriture spirituelle pour le voyage. Mais quel voyage? Bien le voyage de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un petit peu comme un voyage. Et si nous n'avons pas de nourriture, nous allons dépérir Et si nous manquons du Saint-Esprit, en quelque sorte, si nous n'avons pas été renouvelés dans le Saint-Esprit, vivifiés par le Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, nous allons dépérir spirituellement. De même que celui qui n'est pas alimenté correctement, qui n'a pas ce pain, ce poisson, cet œuf, il ne va pas pouvoir avancer, il ne va pas pouvoir s'épanouir, il va souffrir de malnutrition. Ben, de même, dans la vie spirituelle, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle, nous allons souffrir de malnutrition spirituelle. Et Jésus nous demande une chose, il nous dit, eh bien, le Saint-Esprit va être accordé parce que Dieu exauce, mais il faut le demander à ceux qui le demandent. Donc ça, c'est notre part, c'est notre responsabilité. Alors, d'un côté, on peut dire qu'on l'a déjà reçu. Pourquoi est-ce que, à quoi ça sert de le demander, puisque on l'a dit dans une autre réunion, que lorsque l'on est né de nouveau, on a reçu l'Esprit de Dieu. Alors à quoi sert-il de le demander comme Jésus nous l'enseigne ? Bien, c'est sur un plan différent. Nous avons besoin de le demander, oui, car nous devons aspirer à davantage de la présence de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que nous n'ayons pas l'Esprit de Dieu, mais nous pouvons avoir davantage de son onction, de sa présence et de son action dans nos vies. Il s'agit en fait de demander un revêtement de puissance pour vivre dans la vie chrétienne, parce que ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, mais par l'Esprit de Dieu que nous pourrons aller de l'avant pour le Seigneur. Je vous donne un exemple pour montrer la diversité des chrétiens. Par exemple, si quelqu'un a soif, il peut se contenter d'une gorgée d'eau, mais quelqu'un qui va vouloir plus, il va boire un verre entier, il va redemander davantage. C'est ça, par rapport à l'Esprit, on peut se contenter de peu, ou on peut désirer recevoir davantage, et effectivement, on va recevoir plus que les autres. Donc c'est à nous, si vous voulez, de demander à être remplis de l'Esprit de Dieu. Un petit détail qui a son importance ici, dans l'original, vous avez ce texte qui dit « À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il Saint-Esprit ?» Il n'y a pas le mot « l'article » défini qui est traduit dans notre version, et quelquefois ça apparaît comme ça, sans article. Alors il y a les spécialistes qui se sont interrogés sur cette question et ils ont défini ceci. Quand il y a le Saint-Esprit dans l'original, donc dans le grec ça apparaît, le mot le, alors ça désigne la personne du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas ici dans ce verset. Dans ce verset il n'y a pas l'article et là ils disent que ça désigne les dons de l'Esprit et son action en notre faveur. Ce qui signifie dans le verset qu'il s'agit de demander l'action du Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'a traduit dans la version Kuhn. C'est dit, si donc tout mauvais que vous êtes, d'ailleurs Kuhn reprend le mot mauvais qui est peut-être plus compréhensible, vous savez néanmoins donner de bonnes choses à vos enfants, ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent. Donc il a traduit les dons de l'Esprit pour montrer cette petite nuance qu'il ne s'agit pas de la personne du Saint-Esprit, mais de ses dons. Et ça rejoint le parallèle de Matthieu chapitre 7 et verset 11 où ce texte est repris d'une autre manière, puisqu'il est dit « Votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et il n'est pas mis le Saint-Esprit, ou l'Esprit, ou Esprit tout court, il est dit de bonnes choses. Et dans ces bonnes choses, nous voyons qu'il y a un parallèle avec les dons du Saint-Esprit qui sont accordés aux croyants. Donc, demander le Saint-Esprit, ça c'est la première chose, ou demander ses dons. Deuxièmement, vivre selon l'Esprit, ça c'est ce que nous devons faire, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de l'Esprit. Après demander, c'est vivre. Romains chapitre 8, versets 5 et 6 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Amen. Il y a deux catégories de personnes ici que nous pouvons assez facilement dégager. La première catégorie, c'est ceux qui marchent, ou ceux qui vivent, pardon, selon la chair. C'est-à-dire, ça représente quelle catégorie de personnes ? Ben, ce sont les non-croyants. Ceux qui marchent selon la chair, c'est ceux qui vivent selon leurs désirs, leurs convoitises, leurs pensées, qui n'est pas orientée vers Dieu, et ils ne se soucient pas du Seigneur. Ils ne croient pas forcément en Dieu et ils vivent pour les choses de cette terre, tout simplement, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Et Jésus, l'apôtre Paul dit, il y a une première conséquence. En effet, ceux qui vivent selon la chair, ils affectionnent les choses de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prennent plaisir à leur propre vie de péché, à leur propre désir, à leur propre volonté, sans se soucier de Dieu. Et ainsi, ils cherchent leur propre bonheur dans un monde sans Dieu, et ils ne veulent pas du Seigneur. C'est en fait un leurre, parce qu'ils ne peuvent pas être heureux. On sait très bien que le bonheur, il n'y a que Dieu qui peut nous l'accorder, et tous ceux qui cherchent le bonheur sans Dieu, ils se heurtent à un mur et à un échec. Donc, ce sont des gens qui vont passer leur vie à s'occuper de leur chair, c'est-à-dire de leur corps, de leur être. Ils vont s'occuper d'eux-mêmes, sans penser à Dieu. Et la Bible nous dit que ce corps qui est affectionné, ils affectionnent les choses de la chair, eh bien, il retournera à la poussière. Donc, ils ont passé leur vie à s'occuper d'un corps qui, de toute façon, va périr par la mort et qui sera détruit. Jésus a pris cet exemple saisissant d'un homme insouciant et matérialiste qui représente bien notre société, qui avait de grands biens et puis qui a dit « je ferai construire encore une grange encore plus grande pour récolter mes récoltes ». Il faisait des projets à cause de ses biens, à cause de son argent, mais sans se soucier de Dieu. Et Jésus lui rappelle « insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ». Il s'était occupé du corps, il s'était occupé de son bien-être physique, mais il ne s'était pas soucié de Dieu. Et le Seigneur lui dit, et tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as amassé, pour qui ça sera, tu n'en profiteras pas. Et donc dans l'éternité, nous n'emporterons pas tous nos biens, nous n'emporterons pas tout notre confort et toutes ces choses que nous avons ici-bas. Il nous faut nous soucier des choses spirituelles. Ça, c'est la première conséquence. Donc on a vu, ceux qui vivent selon la chair affectionnent la chair. La deuxième conséquence que Jésus mentionne, c'est que il y aura un aboutissement à la mort spirituelle. Il le dit dans la deuxième partie, l'affection de la chair, il dit, c'est la mort. La mort, pas physique, mais la mort spirituelle. C'est la mort, c'est-à-dire qu'ils sont séparés de Dieu, c'est-à-dire que leur éternité, s'ils ne changent pas, elle est vouée à être loin du Seigneur, c'est-à-dire en enfer. Le message est assez direct, assez abrupt, il fait mal, mais ça nous montre en même temps la réalité du danger qui guette tout homme qui vit selon la chair et qui ne se préoccupe pas de Dieu. Eh bien, il est destiné à la perdition. Le diable, lui, désire que nous soyons dans cet aveuglement, que nous restions dans la chair. Mais Jésus veut nous ouvrir les yeux pour que nous quittions ce domaine dangereux dans lequel nous sommes et que nous entrions dans la vie de l'Esprit. Alors, vivre selon l'Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième catégorie de personnes. Ce sont donc les croyants. Et il y a une première conséquence, Paul dit, ils affectionnent les choses de l'Esprit, ceux qui vivent selon l'Esprit. Ils vont manifester un intérêt pour tout ce qui concerne les choses spirituelles, c'est-à-dire ils aiment la parole de Dieu, ils aiment quand on se rassemble pour louer le Seigneur, ils aiment la prière, ils aiment servir le Seigneur, etc. Et ces gens qui marchent, qui vivent par l'Esprit, il y a en eux le désir de louer Dieu, le désir de rencontrer d'autres chrétiens, et cela nous pousse à vraiment nous aimer les uns les autres. Mais c'est l'Esprit en nous qui crée ces choses. Ce sont des gens qui ont mis Jésus à la première place, car le Seigneur, dans leur vie, c'est tout. Ils sont attirés par tout ce qui est pur, tout ce qui est saint et tout ce qui est élevé. Ça, c'est la première conséquence. Ceux qui vivent selon l'Esprit affectionnent les choses de l'Esprit. Deuxième conséquence, pour ceux qui marchent selon la chair, c'était la mort. Pour ceux qui vivent selon l'Esprit, c'est la vie et la paix. Donc Dieu nous communique une vie abondante. Alors il est vrai que la parole nous enseigne que nous avons déjà la vie éternelle quand nous croyons. Nous avons la vie et la vie en abondance. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Et un verset nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés et que nous sommes enfants de Dieu parce que l'Esprit témoigne à notre esprit de cela. Mais nous n'avons pas seulement la vie, nous avons aussi la paix, car nous étions ennemis de Dieu par nos actes et nos pensées, mais Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Et ainsi, le sang qui a été versé nous permet d'être amis avec Dieu, d'ennemis que nous étions. Alors vivre selon l'Esprit, c'est ça. Ça consiste à faire tout ce que Dieu nous demande, de rechercher non pas ce qui nous plaît, ce que la chair nous commande, mais ce qui plaît à Dieu. C'est donc une autre manière de vivre. C'est faire le choix de mettre la priorité au royaume de Dieu avant notre propre désir. Et puis, la Bible nous montre que c'est le seul moyen pour nous épanouir pleinement en Christ, c'est de vivre selon l'Esprit. Donc nous devons vivre selon l'Esprit, on a vu. Ensuite, troisièmement, nous devons marcher selon l'Esprit. C'est une autre expression qu'on trouve dans Galates chapitre 5 et au verset 16. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà un autre ordre qui nous est adressé, et que nous devons mettre en pratique, c'est de marcher selon l'esprit. Nous comprenons que c'est un impératif, et donc que Dieu nous demande de le faire, marcher selon l'esprit. Ainsi, nous devons obéir à Dieu. La vie chrétienne que Dieu attend de nous, c'est ça. Ce n'est pas de vivre une vie chrétienne, on va dire, médiocre ou loin du Seigneur, mais c'est une vie intense, c'est une vie, on va dire, de progression, d'avancée, parce que la marche nous fait penser à deux choses. La marche, c'est d'abord une détermination, et puis c'est une progression. Une détermination parce que on doit vouloir avancer dans les voies de Dieu. Ça, c'est notre part, c'est notre responsabilité. On doit avoir envie et être vraiment déterminé pour le Seigneur. Mais la deuxième chose, c'est la progression, car on ne peut pas envisager de rester 10 ans, 15 ans, sans avancer dans notre vie spirituelle, parce qu'on doit être ambitieux dans le domaine spirituel, et rechercher les choses d'en haut, nous attacher à progresser spirituellement. Maintenant, que signifie cette expression « marcher selon l'Esprit » ? Alors, ça signifie accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit, accepter son influence dans notre vie de tous les jours. Et puis, on voit que ce verset évoque un combat. Vous avez d'un côté l'Esprit qui veut nous conduire, et c'est à nous de marcher selon l'Esprit. Et puis, d'un autre côté, vous avez les désirs de la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc, ça montre que dans la vie du croyant, il y a un combat pour maintenir une vie de l'Esprit intense avec le Seigneur. Car si on ne fait rien, si on ne réagit pas, si on ne cherche pas à marcher selon l'Esprit, inexorablement, petit à petit, c'est la chair qui a des désirs contraires, qui va prendre le dessus et qui va envahir notre âme, et ainsi nous allons finir par nous éloigner du Seigneur. Donc la parole de Dieu est claire, elle parle de la chair qui est un principe négatif, attaché à notre nature humaine, qui nous entraîne toujours vers des désirs loin de Dieu, et la parole de Dieu est très claire, ferme concernant notre chair, elle nous dit de ne pas faire de cadeau à la chair, mais de la crucifier. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. C'est ça que nous devons comprendre. Elle doit être crucifiée avec ses passions et avec ses désirs. Donc il s'agit de la faire mourir, il s'agit de permettre qu'elle ne porte plus de fruits. Alors on peut prendre une image d'un auteur qui s'appelle Scofield, qui a écrit beaucoup de commentaires sur la parole. Il prend une image très simple. Il dit, voilà, le chrétien c'est comme deux arbres. Il y a un arbre nouveau qui représente la vie nouvelle qui a été implantée par le Seigneur en lui, puis il y a l'arbre ancien, le vieil arbre, qui représente sa vieille nature. Et il dit, la difficulté pour le chrétien, ça consiste à maintenir le vieil arbre hors d'état de porter du fruit, tandis qu'on permet au nouvel arbre qui a été implanté par Dieu en nous de porter du fruit. C'est cette image qui représente bien ce qu'on a lu. Marcher selon l'esprit, ça c'est la nouvelle nature. Et puis il y a les désirs de la chair qui sont là, ça c'est l'ancienne nature. Et il nous faut permettre à la nouvelle nature de développer du fruit, de marcher selon l'esprit, et puis il nous faut pas permettre à l'ancienne bien de faire quoi que ce soit. Alors remarquez que l'ordre de Dieu, il est positif. Quand Dieu dit marcher selon l'esprit, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est un défi à relever. Et nous chrétiens, nous devons être de ceux qui relèvent des défis pour le Seigneur. Marcher selon l'esprit, ça nous engage à marcher par la foi, ça nous engage à avancer dans la vie de l'esprit, donc c'est quelque chose de positif. Une autre remarque, c'est la conséquence. Si nous appliquons cette parole et que par la foi nous marchons par la vie de l'esprit, nous aurons la victoire sur les désirs de la chair. Et c'est comme cela, frères et sœurs, que l'on peut triompher des désirs de la chair. Effectivement, certains ont compris à l'envers. Ils ont essayé de vaincre la chair par la chair. Or, il nous faut vaincre la chair par l'esprit. Si je veux vaincre la chair par la chair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce verset à l'envers. Je vais m'efforcer de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, je vais essayer par moi-même. Je vais m'efforcer pour réussir à marcher par l'esprit. Et si je le comprends à l'envers, eh bien, ça n'aboutira pas. La parole de Dieu est positive. Elle ne nous dit pas, elle ne commence pas par nous dire n'accomplissez pas les désirs de la chair. Elle commence par nous dire marchez selon l'esprit. Conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement dit, on ne peut pas vaincre la chair par la chair, mais seulement par l'esprit. Ça, il nous faut bien que ça soit ancré dans notre esprit. L'opposition de la chair est trop forte. Nous avons besoin de l'esprit. Tant que nous sommes sur terre, frères et sœurs, il nous faut bien nous rappeler que nous avons une nature encore charnelle, humaine, qui n'est pas notre allié. Nous devons la traiter durement. C'est Paul qui le dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Donc notre chair n'est pas un allié, c'est un ennemi, et nous devons la tenir en échec, sachant malheureusement que notre chair ne pourra complètement être éradiquée sur cette terre, car à moins de quitter notre corps, nous aurons toujours la chair avec nous jusqu'à notre dernier souffle. Néanmoins, nous devons combattre contre ces désirs et marcher selon ce que l'Esprit nous inspire. C'est ça que la parole de Dieu nous engage à faire. Donc il n'y aura pas de perfection totale, mais il y aura un combat. Quatrième chose que Dieu nous demande, de prier sous l'inspiration de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » La prière en langue, la prière inspirée par le Saint-Esprit. Alors, quand vous lisez ce verset, voyez quand il est dit « je prierai par l'Esprit », c'est avec un « e » minuscule, hein, vous l'avez sous les yeux ou dans votre Bible. Il s'agit bien ici de l'esprit humain et non pas du Saint-Esprit avec un « e » majuscule. Il faut bien différencier quand la Bible parle de l'esprit, parce qu'en grec c'est le même mot, il n'y a pas de majuscule. Mais en réalité ici, il s'agit bien de l'esprit humain, en parallèle avec l'intelligence. Alors, si on comprend bien ce verset, Paul dit qu'il y a en nous l'esprit humain et il y a en nous l'intelligence. Et il dit, il distingue les deux. C'est assez subtil, c'est assez fin. Et ça nous montre que dans l'être intérieur, il y a toutes sortes de réalités qui nous échappent. Il dit, voilà, vous avez un esprit, on peut la considérer comme la partie la plus élevée de l'être intérieur, sachant que l'âme est la partie la plus inférieure, car dans l'être intérieur, on peut arriver à distinguer l'esprit et l'âme, bien qu'il y ait des versets où ça ne soit pas toujours évident, mais enfin on arrive à cette conclusion que l'esprit c'est la partie la plus élevée, l'âme la partie la plus inférieure. L'esprit est utile pour communiquer avec Dieu. Si on parle maintenant de l'intelligence, l'intelligence c'est la réflexion, la logique qui nous permet de comprendre le fonctionnement du monde. Elle est utile pour communiquer avec les autres. L'esprit utile, partie élevée, utile pour communiquer avec Dieu. L'intelligence, réflexion logique, utile pour communiquer avec les autres. Alors Paul fait la distinction. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. On se rend compte que l'église de Corinthe manifestait beaucoup les dons spirituels. Et Paul souligne que le parler en langue peut revêtir deux formes. Il dit, vous pouvez prier par l'esprit, c'est-à-dire prier en langue, mais quand on prie en langue, il dit, l'intelligence demeure stérile, donc on prie par l'esprit humain, pour bien distinguer le Saint-Esprit de l'esprit humain. C'est une manière de prier où l'intelligence est au repos, mais où notre esprit intérieur est en contact, est en train de communiquer avec Dieu. Peut-être que ça nous échappe, mais c'est ainsi. Et la deuxième manière, forme de parler en langue, il dit, c'est le chant. Je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit. Mais c'est aussi un chant en langue qui permet à notre esprit de parler à Dieu. En fait, dans l'original, c'est le verbe, c'est le mot psalmodier. Je psalmodie par l'esprit. Il s'agit de cantiques en langue, avec, en parallèle avec des cantiques par l'intelligence. Qu'est-ce que c'est les cantiques par l'intelligence? C'est les cantiques qu'on a fait ce matin. C'est les cantiques dans notre langue où on comprend ce qu'on chante. Donc, Paul dit, voilà, il y a deux manières de prier, il y a deux manières de chanter. Il y a la manière par l'esprit humain et il y a la manière par l'intelligence, dans les deux cas. Il dit, de toute façon, l'ensemble doit être inspiré par l'esprit. Quand on chante des cantiques, que ça soit inspiré par l'esprit. Quand on prie, que ça soit inspiré par l'esprit. Dans les deux manières. Mais la prière en langue est une manière de rendre d'excellentes actions de grâce. Ça, c'est sûr. Néanmoins, elle n'est pas la seule forme d'expression. Parce que les autres personnes ne peuvent pas comprendre ce que dit la personne qui parle en langue. Donc, nous devons aussi prier avec l'intelligence. Quand nous prions en langue, en fait, c'est l'esprit humain qui s'adresse à Dieu. Mais quand nous prions avec l'intelligence, c'est notre voix, nous-mêmes, notre intelligence qui s'exprime de sorte que les autres aussi comprennent. Alors Paul dit, voilà, il faut un équilibre entre les deux. Car si vous ne faites que prier en langue, eh bien personne ne va rien comprendre et personne n'en recevra rien. Et ainsi il dit, je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence, je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence, ce qui fait qu'il y a un équilibre dans notre vie spirituelle. Donc, un autre verset nous montre qu'on peut être poussé à prier par l'esprit, je pense à Romains 8, 26, qui dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit nous aide à prier. Il nous aide, par exemple, à intercéder. Alors, on ne va pas le savoir, mais il va nous pousser à prier pour une personne, par exemple, à intercéder pour elle, ou à louer dans une autre circonstance, ou à rendre grâce, etc. Ça, c'était donc prier sous l'inspiration de l'Esprit. Cinquième partie. La parole de Dieu nous recommande de ne pas éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Ce verset nous montre qu'il peut être éteint et que nous devons veiller à ne pas l'éteindre justement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ici, le Saint-Esprit est comparé à un feu. Et un feu, comme tout feu, peut être soit attisé, si on fait ce qu'il faut, ou soit il peut être éteint. Il en est de même pour l'esprit. Alors, qu'est-ce qui éteint le Saint-Esprit? Bien, on en a tous des exemples dans la parole. Les traditions humaines, le légalisme, ou le formalisme religieux, tout ça, ça va empêcher l'action de l'esprit. De même que le manque d'amour, la critique d'un frère ou d'une sœur, les jugements, l'indifférence aux besoins des autres, le péché, l'amour du monde, la convoitise des biens matériels, tous ces éléments vont éteindre l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller dans notre vie à éviter ces choses. Il y a une multitude de manières d'éteindre l'Esprit et la Bible nous dit que nous devons entretenir ce feu dans notre cœur. Au verset 19 d'ailleurs, Paul dit de ne pas mépriser les prophéties. Je me suis demandé pourquoi. Alors que Paul écrit à des chrétiens, il demande aux chrétiens de ne pas mépriser les prophéties. Est-ce qu'un chrétien peut mépriser des prophéties? Normalement, un chrétien ne méprise pas des prophéties, sauf si ce chrétien a éteint l'Esprit de Dieu et puis qu'il n'a plus de vie spirituelle. Alors il devient sourd à tel point qu'il va mépriser, qu'il va considérer comme banal, qu'il va dénigrer les prophéties. Ça, c'est un endurcissement de cœur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Au contraire, nous devons lutter et réagir pour ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui attise l'Esprit de Dieu ? Eh bien, c'est tout l'inverse de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la prière, la soif de Dieu, le désir de plaire à Dieu par-dessus tout, rechercher une vie conforme à la volonté de Dieu, ça va en quelque sorte développer, attiser l'Esprit en nous. Et puis le sixième point, c'est autre chose que la parole de Dieu nous demande, d'être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors la Bible nous dit très clairement que concernant le vin, que c'est son abus est proscrit et que nous devons veiller à ne pas tomber dans les pièges de la boisson. Toutefois, la Bible n'interdit pas la consommation de vin. Elle nous dit d'en boire avec modération. C'est vrai que ceux qui boivent beaucoup d'alcool, ils ont une certaine joie un petit peu factice qui vient, et l'alcool grise, et la personne même peut finir par perdre contrôle d'elle-même. On sait que des alcooliques deviennent violents. C'est terrible la boisson. On parle d'ailleurs de l'emprise de la boisson. Et Paul recommande aux chrétiens de ne pas rechercher leur plaisir dans la boisson, mais de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Alors, les conséquences de la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas l'ivresse, ce n'est pas l'alcool, mais au contraire, les conséquences de la plénitude de l'Esprit, c'est une meilleure maîtrise de soi, c'est une joie réelle et profonde, c'est une progression spirituelle, ce sont des choses donc positives, c'est ce que nous devons rechercher. Le verbe utilisé est très intéressant. Vous voyez, quand il est dit « soyez remplis du Saint-Esprit », on peut comprendre que c'est ponctuel. Allez hop, vous êtes remplis comme ça du Saint-Esprit. En réalité, dans l'original, c'est un impératif présent passif qui devrait se traduire ainsi, qui est un peu lourd, « soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Voilà le sens qu'a voulu donner l'apôtre Paul. « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Donc il y a un processus. Il y a une nécessité de renouvellement. D'autres versions l'ont bien traduit comme parole vivante qui dit « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et recherchez en lui votre plénitude. » Ce qui signifie que si on est rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, on ne le sera pas forcément demain. Il faut le rechercher, il faut y aspirer. Chaque jour, nous avons besoin d'être renouvelés. Paul ne dit pas « Soyez remplis du Saint-Esprit et puis après comme ça, vous allez être toujours remplis. » Il dit « Recherchez continuellement à être rempli du Saint-Esprit ». Ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Et nous devons continuellement le rechercher. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour être rempli de l'Esprit ? Confesser d'abord tout péché, parce que le péché, c'est une entrave à la plénitude de l'Esprit. Donc, nous devons demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Aspirer aussi à une vie plus intense, une vie spirituelle, une vie d'abondance avec Dieu, aspirer dans notre cœur, rechercher dans la parole tout ce qui concerne ses promesses. Il nous faut aussi nous vider de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre vanité, de notre amour du monde, parce que si on est rempli de soi-même, on ne peut pas être rempli de l'Esprit. Donc il y a un côté d'humilité, un côté de mort à soi-même, de se vider soi-même. Et puis enfin, il nous faut écouter la voix de l'Esprit et lui obéir. C'est comme ça qu'il va se renouveler en nous, car si on n'obéit pas, si on ne veut pas écouter la voix de l'Esprit, il ne va pas nous renouveler, il ne va pas nous remplir. Et si on n'écoute pas, qu'on n'obéit pas, petit à petit, on va l'éteindre finalement, on va faire l'inverse. Alors en conclusion, on va terminer. On a vu notre attitude, et on peut dire que soit notre attitude va favoriser l'action de l'Esprit, soit elle va éteindre l'action de l'Esprit. Donc nous avons une grande responsabilité, frères et sœurs, et nous devons nous conformer à tout ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant cette vie de l'Esprit. C'est le seul moyen d'avancer. Je vous rappelle ces termes, demander le Saint-Esprit, vivre selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, prier par l'Esprit, ne pas éteindre le Saint-Esprit, être constamment rempli du Saint-Esprit. On aura encore certainement une ou deux réunions concernant le sujet du Saint-Esprit par rapport à la vie de l'Esprit, car il y a encore d'autres aspects par rapport à l'Esprit qu'on n'a pas pu partager. Mais là, j'aimerais prier quelques instants le Seigneur. Car cette parole nous engage. Nous engage à nous rechercher, à nous avoir soif. Donc, ce message, c'est pour moi, mais c'est aussi pour chacun d'entre vous. C'est ma responsabilité ce matin. Alors, je vais inviter le groupe à venir ici, puis on va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence. Et nous voulons être une église qui vit et qui marche selon l'Esprit. Nous te prions Seigneur de bénir mon frère, ma sœur, ou peut-être les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau, qui sont là au milieu de nous.